des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, nous passons cette heure avec l'un des grands noms américains de la narrative non-fiction, la non-fiction qui raconte, si l'on traduit à la lettre. Ce genre emprunte au journalisme ses méthodes d'observation et d'investigation tout en restant un véritable objet littéraire. Alors, il s'est développé dans les années 60 et 70 avec des auteurs comme Hunter Thompson, Tom Wolfe, Norman Mailer ou Joan Didion. Il se porte encore très bien aujourd'hui, puisque devant nous se tient William Finnegan, prix Pulitzer pour Jour barbare, aujourd'hui publié aux éditions du Sous-sol, traduit de l'anglais, de l'américain, par Frank Reichert. C'est le grand livre qu'on attendait sur le surf. Bonjour, William Finnegan.
Hello, glad to be here.
Comment allez-vous?
Very well, thank you.
Je vais très bien, merci.
Vous rentrez d'une session de surf, m'avez-vous dit?
Yeah, surfed yesterday in Biarritz.
Oui, j'ai surfé hier à Biarritz.
Alors vous êtes, d'ailleurs je salue Michel Zlotowski qui est à vos côtés et qui va vous interpréter durant ce temps des écrivains. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors vous êtes, William Finnegan, l'une des grandes plumes du New Yorker. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres tirés de vos reportages aux États-Unis, mais aussi au Mozambique ou en Afrique du Sud, comme Dateline Soweto ou Cold New World, A Complicated War. Vous avez couvert certains aspects de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, la guerre civile au Mozambique, le conflit soudanais aussi. Vous êtes également attaqué à des sujets géopolitiques et sociaux hautement brûlants, par exemple l'immigration mexicaine dans les États du Sud des États-Unis. Mais vous êtes ici pour tout à fait autre chose, pour Jour barbare, qui retrace votre vie de surfeur, une vie que vous avez longtemps cachée et que vous nous racontez de 1956, moment de votre initiation au surf, jusqu'à aujourd'hui. C'est une autobiographie sur une obsession, même une addiction pour un sport. Alors je dis sport, est-ce que le mot vous va, William Finnegan, parler du surf comme d'un sport?
Sure, you can say sport.
Bien sûr, on peut dire sport.
It's not exactly a comprehensive description.
C'est pas tout à fait une description globale.
There's competition,
il y a
some organization.
Concurrence entre diverses surfers, organisations. 95%. Mais la plupart des surfeurs, 95%, suivent cette chose à l'extérieur des structures. C'est eux et l'océan. Ça n'a rien d'organisé et l'endroit où vous pratiquez, c'est cet endroit de la nature sauvage la plus intense. Donc le sport, ça ne couvre pas exactement. Ce n'est pas une bonne explication.
Et on va le voir durant cette émission, voilà, qu'on dépasse évidemment le cadre du sport. On va même jusqu'à un certain mysticisme et pourquoi pas une nouvelle théologie. Alors ce livre, c'est un livre qui raconte votre vie, comme si votre vie d'ailleurs n'avait été que la recherche des sensations que provoque cette recherche de la vague parfaite. C'est une quête aventureuse, c'est une quête existentielle, c'est aussi, je le disais, une quête mystique, mais une quête aussi littéraire qui est hérissée de souvenirs de lecture, de moments où vous confessez très jeune d'ailleurs l'envie d'écrire, vous vous immergez dans des tentatives de romans. Mais le surf monopolise l'espace narratif de Jour barbare. Il le monopolise dans le temps, puisque les rares périodes de votre vie où vous ne surfez pas font l'objet d'ellipses narratives. Et il le monopolise aussi dans l'espace, puisque si vous nous donnez à voir vos innombrables voyages et les lieux traversés, Hawaï, Pacifique, Samoa, Tonga, Indonésie, Afrique, Madère ou Long Island, au fond, ces lieux ne prennent sens qu'en tant que le surfeur se les approprie pour sa pratique. D'ailleurs, vous le racontez et je voudrais citer ce lieu dont vous parlez. Je fais désormais partie de ces New Yorkais qui sont toujours sur le point de rentrer d'où ils viennent. Mais il ne s'agit pas de faire mes valises, ni de rester sur place, mais bien plutôt d'être toujours prêt, dès que la houle, le vent et la marée se liguent pour engendrer des vagues surfables, à me lever de mon bureau et à envoyer balader tout ce que j'étais en train de faire pour gagner quelques mers voisines. C'est de là que je viens, de ce fugace, fragile corps de mer. En vérité, ceci est un livre sur ce lieu, cet espace incrusté dans l'ambre du mythe. Alors c'est un livre sur un lieu qui est peut-être cette vague, cette paroi d'eau qui s'enroule sur elle-même et qui fait signe à celui qui va bientôt s'y engouffrer. C'est un livre sur un mystère, sur une passion qui fait figure d'horizon indépassable et qui a cannibalisé, au fond, le cours normal de ce qui aurait pu être une vie, au fond, banale et qui est devenue une vie singulière. Je voudrais, William Finnegan, qu'on commence par ce titre « Jour barbare ». Barbare, étymologiquement, c'est celui qui parle une autre langue, qui parle par borborygme, qui dit barbare. C'est comme ça que les Grecs définissaient le barbare. C'est l'usage courant. Il y a aussi un autre usage, plutôt banal, qui suggère un déchaînement de violence, une invasion. On parle d'invasion barbare. Alors qu'à vous lire, on a l'impression que le surf s'apparente davantage à un désengagement de la civilisation, un retrait dans un monde quasi idéal. Alors quel sens vous donnez à barbare, William Finnegan ?
I think it has a few different meanings.
Je crois que ça a plusieurs sens, ce mot barbare, dans mon livre.
On the one hand, it's as you say,
d'un côté, c'est comme vous le dites, c'est l'étranger, celui d'un autre endroit, celui qui parle une autre langue. C'était un défi de décrire sur le surf et sur la vie du surf pour un grand public, parce qu'il y a une langue tribale que l'on utilise pour décrire les choses les uns aux autres de cette tribu, comment on décrit les vagues, les océans et ce que nous faisons. Il a fallu que je le traduise en anglais, mais en restant fidèle à la langue tribale. C'était un défi littéraire. Et il y a aussi ce sentiment de violence. De violence qui est dans l'océan. Et les choses qui nous intéressent, les choses que nous tentons de pénétrer, d'engager, il y a de la violence. On ne veut pas en souffrir. On veut surfer sur les vagues, dans les vagues, parce qu'il y a beaucoup de beauté là-dedans. Mais pour moi, sur le plan social et dans mon travail, il y a ce fossé énorme. Vous savez, j'ai comme une vie bipolaire. Vous avez dit que je travaillais tout d'abord pour le journalisme politique, couvrir des sujets internationaux, des conflits, je couvre des conflits internationaux. Et ça, c'est une forme normale de citoyenneté. On est quelqu'un de responsable. On tente de produire un corps de travail qui est utile socialement. En attendant, j'ai cette autre vie que j'ai cachée pendant de nombreuses années. Ce temps incroyable, cette énergie incroyable dépensée à chasser les vagues, une activité totalement inutile qui ne produit absolument rien, très très difficile à justifier en termes de citoyenneté, de responsabilité. C'est comme le sommet de l'irresponsabilité. Et donc, écrire ce livre a été d'une certaine manière tenter de justifier toutes ces années passées à faire cette chose un peu folle, tenter de l'expliquer à mes lecteurs.
Est-ce que c'est justifier cette vie un peu folle aux yeux finalement des autres ou la justifier aussi de façon plus personnelle par la littérature dont on sent qu'elle compte énormément pour vous parce que ce livre est irrigué de citations d'écrivains, de citations de lecture, de tentatives, de romans, vous en parlez énormément. Est-ce que la justification qui est au centre de ce livre n'est pas une justification littéraire et la littérature compte énormément pour vous?
It is, and
oui, elle l'est. Importante pour moi. Peut-être que ce livre porte en fait sur mon développement en tant qu'écrivain. La vérité, c'est que je me suis toujours considéré comme un écrivain, depuis que j'étais jeune garçon. Vous savez, je faisais attention au bon journalisme à l'époque, je suis un moins bon journaliste aujourd'hui, mais il y a tellement peu de surf dans le journalisme et très peu dans ce que je lisais. En fait, j'ai essayé, moi, d'en produire. Très peu d'autocritiques au sujet de ce fait. Et j'écrivais de la fiction au départ. Et puis, je suis passé à la non-fiction. Et puis, des petites choses très très brèves sur le surf. Par exemple, une belle journée, une très très belle journée. Je me souviens des détails, je me souviens de ce qui s'est passé cette journée-là. Mais j'écrivais pas sur le surf. Je me considérais pas comme surfeur. Le surf était simplement quelque chose que j'avais fait depuis l'enfance, que j'ai toujours fait, et j'y avais jamais réfléchi. Ça fait partie de mon image intérieure. Ce que je faisais, moi, c'était écrire.
Je voudrais lire un extrait de Jour barbare et mettre dans le bain, si je puis dire, l'auditeur. On va se promener avec vous du côté d'Uluwatu, qui est un spot mythique à Bali, au bord d'un temple. Le spot qui m'a le plus profondément marqué était Uluwatu, une gauche spectaculaire d'ores et déjà célèbre. Un temple hindouiste du XIe siècle, construit en dur corail gris, perché juste à l'est de la vague sur le rebord d'une haute falaise. On entrait dans l'eau à marée haute par une clapotante caverne marine. Uluwatu pouvait être très puissante. Et les meilleurs jours, quand le vent de terre était léger, il se produisait dans les longs murs bleus, un phénomène auquel je n'avais assisté nulle part ailleurs. À des endroits discrets et bien séparés le long de la ligne de houle, l'eau écumait doucement jusque très très loin de l'endroit où nous surfions, à des centaines de mètres devant nous et au temps du rivage. Une succession d'étroites formations rocheuses courait manifestement sous la surface à partir du récif, affleurant suffisamment pour faire écumer une grosse vague, mais pas assez du moins, à l'occasion des houles que nous surfions, pour la contraindre à se casser. Et casser est un mot qui revient souvent quand la vague se casse. Je voudrais savoir comment vous réagissez finalement, vous qui avez caché cette vie de surfeur, parce que vous aviez peur, vous le racontez, que les spécialistes de la politique vous disent « Ah, le crétin de surfeur, c'est votre expression, n'y connaît rien en politique ». Donc vous avez caché finalement cette vie de surf. Et aujourd'hui, il y a quand même une belle ironie qui fait que c'est au surf que vous devez non seulement vos plus belles pages, mais un prix Pulitzer, qui est la récompense suprême du journalisme.
Yeah, it's a big irony. You're right.
C'est très ironique. Vous avez parfaitement raison de remporter le Pulitzer pour le travail le moins journalistique que j'ai produit.
I mean, I'm not a news reporter.
Je ne suis pas un journaliste de reportage. J'écris de la non-fiction longue, des narratifs, des récits, mais rien d'aussi personnel. Et j'ai décidé soudain d'écrire ce livre très personnel, d'aller à l'encontre de ma formation qui est de décrire la vie des autres, les problèmes des autres, et d'aller très profondément dans, pas simplement mon récit, mon histoire, mais de faire des descriptions précises et techniques de l'océan, de la façon dont l'océan se comporte. Oui, et voilà, soudain, j'ai plus de lecteurs et plus de prix que jamais, que pour tout le reste de mon travail journalistique sérieux, entre guillemets.
Il y a cet aspect-là, mais il y a aussi cet aspect de vie clandestine, finalement, cachée, que vous aviez vous-même cachée, qui est devenue totalement mainstream maintenant et qui fait le tour du monde aujourd'hui.
Yes, that's true. I really notice it now when I travel.
C'est vrai, je m'en rends compte maintenant aujourd'hui. Là, j'étais à Biarritz hier et à Saint-Sébastien le jour d'avant.
Et
le surf est devenu tellement quelque chose de social. C'est une bureaucratie quasiment. Bien sûr, il y a beaucoup d'affaires autour du surf. Il y a beaucoup plus de gens qui sont en l'eau en train de faire du surf. Mais la façon dont ça a été intégré dans la communauté, ça m'est étrange, ça m'est bizarre et ça me rend mal à l'aise. Quand moi j'étais enfant, surfer était très impopulaire avec les autorités. C'était en Californie à l'époque. La police, les autorités scolaires n'aimaient pas les surfeurs. C'était pas du tout intégré, c'était, on s'y opposait même. Et vous avez raison, maintenant tout ça a complètement changé.
Est-ce que c'est un aveu ou même un coming out littéraire que vous faites avec Jour barbare? Pas sexuellement, mais surfingement.
En fait, j'ai écrit un article pour le New Yorker pour, si vous voulez, voir la température de l'eau, il y a quelques années. Et rien ne s'est produit.
Alors, l'article dont vous parlez, William Finnegan, c'est le portrait du surfeur et docteur Mark Reneker. Qu'est-ce que c'était? C'était un grand reportage, en fait, un portrait de surfeur. C'est ça qui vous a permis de sonder vos collègues, de sonder la température de l'eau, comme vous dites?
Yes, it was a complicated piece. It actually
oui, c'était quelque chose d'assez compliqué. Ça m'a pris sept à écrire. C'est long pour un article de magazine. Mais c'était en fait le fait que je traînais des pieds pour écrire sur le surf. Et lui aussi, c'était un personnage extrêmement complexe.
As I became involved in the reporting,
en m'impliquant dans le reportage que j'écrivais sur lui, j'écrivais aussi au sujet d'une petite communauté de surfeurs de grandes vagues à San Francisco. Et je me suis rendu compte qu'il était assez impopulaire dans cette communauté, ce que je ne savais pas quand j'ai commencé l'écriture. Et là, j'ai eu un problème. Comment en faire passer cela ?
And not wanting to,
sans vouloir
to upset him, make him unhappy with his
le mécontenter, lui, sur la révélation de son impopularité. Donc l'histoire est devenue assez complexe à écrire.
Dans cet article, vous aviez caché le fait que vous étiez vous-même surfeur quand vous avez fait ce portrait en 1992 de Mark Reneker.
Non, pas vraiment. Il était impossible d'écrire au sujet d'un surfeur, vraiment dans des conditions tellement dures, intenses. Et c'était évident que moi aussi j'étais dans l'eau au même moment, que moi aussi j'étais sur les vagues. Et le reportage porte en fait aussi sur notre relation. Lui, c'était un surfeur de grandes vagues, et lui me poussait toujours, « Allez, vas-y, tu crois que c'est trop grand, qu'elle est trop grande ? Non, tu peux y aller, tu peux utiliser ma grande planche spéciale, vas-y, rentre dans l'eau. » C'est lui qui me persuade d'aller chevaucher des très grandes vagues, et ça fait partie de l'histoire.
Donc là, vos collègues ont su que vous étiez surfeur, dès ce moment-là, vous ne pouviez plus le cacher, finalement. Dès 1992, le coming out était fait.
That's right, and some
Tout
people were kind of shocked. They were some of them like the fact checkers.
Certains d'entre eux, comme les fact checkers, comme on dit aujourd'hui, ont été choqués par ce que Reneker disait au téléphone. Lui, c'est un médecin, et pourtant ses idées sur le danger, le risque. Il disait non, tout va bien, n'aie pas peur. Et les fact-checkers disaient, comment ? Lui, c'est un médecin et il donne des conseils à des gens de rentrer dans des conditions qui peuvent être mortelles. Et ils me regardaient de façon bizarre. Ça, c'est la culture dont tu viens, toi ?
Bah
oui. Oui, c'est de là que je viens.
Donc c'était le premier test et puis ensuite, il y a eu donc Jour Barbare, qui vous a pris combien de temps d'écriture, Jour Barbare ? En fait, c'est une vie tout ça, mais d'écriture, vous avez commencé quand ?
Pas
très longtemps, une vingtaine d'années simplement.
On va entrer dans ce livre avec vous, William Finnegan, dans un texte dense, itératif, obsessionnel, à la recherche de la vague parfaite, mais plus encore de l'explication d'une passion dévorante. Mais d'abord, on écoute votre premier choix musical. Vous avez choisi « Misirlou » de Dick Dale. Qu'est-ce que c'est que cette chanson, William Finnegan ?
Ah, it's a classic. Surf tune.
Ah ben, c'est un morceau classique du surf et ce type, Dick Dale, qui est devenu connu comme le roi de la guitare surf, faisait quelque chose de vraiment totalement différent avec la guitare.
Early 60s.
Et au début des années 60, tout à fait au début. Moi, j'étais gamin.
Just starting to surf.
Et je commençais à surfer
et
les grands gars, ils écoutaient Dick Dale. Et cette chanson en particulier, ça évoque cette époque où moi j'ai commencé au début des années 60.
Dick Dale, c'est le premier choix de William Finnegan, prix Pulitzer, qui publie Jour Barbare aux éditions du Sous-Sol. C'est traduit de l'anglais, des États-Unis, par Frank Reicher. Et William Finnegan, est-ce que la musique est importante dans votre travail d'écrivain, de journaliste, et j'allais dire dans votre travail de surfeur.
Well, it's an interesting question because
question intéressante.
In surfing, there is something about
dans le surf,
music,
il y a quelque chose au sujet de la musique. La musique qui passe dans votre tête dans certaines situations.
In fact, it's possible
en fait,
look at certain
il est possible
surf spots, you know,
de regarder certains spots de surf, l'endroit, je veux dire, et de faire des analogies. Je parlais de San Francisco, des plages océanes, c'est le spot là-bas. C'est froid, c'est grand, il y a un sentiment un peu de danger, et parmi les compositeurs classiques, on peut le comparer à Mahler. Chaque spot a son thème musical, sa propre musique. Et il y a des endroits qui sont vraiment énormes.
Lequel, Beethoven. Par exemple, serait Beethoven?
I think maybe a place in Hawaii called Sunset Beach.
Hawaii, qui s'appelle Sunset Beach. Ce serait beethovenien.
D'accord. Alors du Mozart. Mozart, on le trouve où?
Ah, Mozart might be.
Ah, Mozart. Ça pourrait être Hualu Bay. Et, moi, oui.
Et Tavarua, le spot absolument absolu, mythique, ça serait quoi la musique de Tavarua?
Maybe no music.
Peut-être pas de musique du tout.
Et pour écrire Jour Barbare, vous avez fait appel justement à la musique. Vous nous disiez que chaque spot avait pratiquement sa musique pour reconvoquer les souvenirs de ces périodes, de ces rides. Vous avez convoqué la musique?
Really no.
En vrai, non.
I know writers, a good friend
je connais des gens qui écrivent, des amis à moi, qui jouent de la musique en écrivant. Vous savez, si moi j'entends de la musique, même dans la pièce à côté, je ne peux pas travailler. Vous avez dit quelque chose sur la musique du langage? Non, moi j'ai besoin du silence pour trouver le bon rythme, la mélodie des phrases. Donc c'est quasiment une opposition.
Alors justement, parlons de cette langue que vous avez choisie, puisque vous nous dites vous-même que presque tout ce qui se passe dans l'eau est indicible. Tout langage est inadapté. C'est une citation de Jour Barbare. Et pourtant, il semble que vous ayez réussi, et je voudrais lire justement un passage relatif à un épisode passionnant qui nous rapproche du roman d'aventure. C'est la recherche de la vague que personne n'a encore surfé. La vague vierge, celle de Tavarua, dont on parlait immédiatement, qui se trouve dans les îles Fidji, qui est entourée d'animaux étranges, hostiles, dangereux, une vague qui se mérite, mais qui apporte des visions où même une voix vous parle. Je vous lis William Finnegan. Un soir, longtemps après le coucher du soleil, alors qu'apparaissaient déjà les premières étoiles, j'ai surfé une vague qui s'est dressée, puis apparut se recourber et s'éloigner du récif vers le large, ce qui était impossible. Le fond du mur brillait d'une obscure lumière verte bouteille, tandis que sa crête écumait de blancheur. Tout le reste, sa face ridée par le vent, le chenal au-delà, le ciel, avait adopté diverses nuances bleu marine. Alors qu'elle se recourbait de plus en plus, je me suis retrouvé en train de voguer en direction du nord de Viti Levu et de la chaîne de montagnes derrière laquelle se levait le soleil. « Pas possible !» me soufflait mon cerveau. « Continue !» La vague semblait mettre ma foi, voire ma santé mentale, à rude épreuve, à moins qu'elle ne fût un énorme cadeau immérité. Les lois de la physique s'étaient comme assouplies. Une vague creuse qui rebroussait chemin en rugissant vers des eaux plus profondes. Impensable. Avec cette lumière au fond de l'océan et cette canopée de dentelle blanche, ça me faisait l'effet d'un train emballé ou de l'irruption du réalisme magique. Je l'ai accompagnée. Elle a fini, bien entendu, par se recourber de l'autre côté, trouver le récif et aller s'effiler dans le chenal. Cette vague était surnaturelle. Comment vous avez travaillé, William Finnegan, pour trouver justement ce langage dont vous dites qu'il était inadapté pour parler du surf?
Yeah, it's in a way that language is it's all about reconstruction.
C'est quelque chose de la reconstruction, de la recréation. Et quand je dis qu'il n'y a pas de langue dans le surf pour décrire ce qui se passe, ce que je veux dire, c'est que la chose principale au sujet du surf, c'est de lire l'océan. C'est comprendre ce que l'océan va faire ensuite. Il s'agit d'anticiper ce que va faire l'océan. La partie athlétique du surf, bon, il faut pagayer, se mettre debout, se tourner, on l'apprend en tant qu'enfant, d'ordinaire. Et après, tout vient de la façon dont vous le comprenez, de la façon dont vous lisez l'océan.
C'est un langage en soi, William Finnegan, le langage de l'océan qu'il faut déchiffrer.
Ça l'est, et c'est pas composé de mots. Et les jugements que vous devez faire sont tellement subtils, ils impliquent tellement de variables. On peut s'arrêter un instant, expliquer pourquoi vous pagayez vers la gauche, et ça prendrait 10 minutes à expliquer. Bien sûr, mais vous avez 2 secondes pour faire ce qu'il faut faire. Mais toute votre expérience, toute votre intuition, toute votre analyse, votre compréhension de l'endroit, eh bien, doit se mettre en place. Et ce ne sont pas des mots.
C'est-à-dire, ce que vous nous expliquiez, c'est qu'il a fallu convertir, finalement, traduire ce langage de l'océan qui n'est pas fait de mots en langage humain qui, lui, est fait de mots.
Yeah, and in that way, I don't feel like it betrays the experience.
Je ne pense pas de cette manière-là que je trahisse l'expérience. Mais c'est une recréation. C'est une version littéraire de quelque chose qui est translittéraire, qui est très instinctif, qui est quelque chose des sentiments intérieurs extrêmement profonds, un travail intérieur pour le surf auquel les lecteurs ne seraient peut-être pas très intéressés. Où est-ce que tu mets ton centre de gravité, par exemple? Où est-ce qu'on se place sur la planche? Des choses qui ne sont pas très intéressantes à décrire. Mais c'est ce que l'on fait sur le champ, sur le moment.
Alors c'est un livre, William Finnegan, qui est plein de fantômes d'écrivains, parce que vous citez par exemple Mark Twain et Jack London. Kerouac est très présent aussi, il y a tout un passage de ce livre où on vous voit partir à l'aventure, un peu à la façon d'un errant. Est-ce que Kerouac n'a pas au fond opéré la synthèse que tout écrivain rêve de faire en écrivant La Route? D'ailleurs, vous savez que le manuscrit même de La Route se présente comme une route, c'est un rouleau, presque comme un chemin. Est-ce que finalement, vous n'avez pas secrètement eu envie de coller pratiquement, même dans la structure du livre, avec la forme d'une vague? Kerouac aurait fait La Route et vous auriez fait La Vague, un petit peu comme Hokusai, vous savez, le peintre d'estampes, qui finalement a incarné la vague suprême en une seule estampe, qui est devenue cette vague finalement l'estampe la plus citée au monde, l'estampe par excellence.
I was not that stylistically ambitious.
J'avais pas cette ambition stylistique.
I work as a long form journalist.
En tant que journaliste sur des textes longs, j'aime bien sur la route. Mais je l'aimais plus jeune qu'aujourd'hui. Kerouac est un écrivain que j'ai aimé quand j'étais jeune. J'ai aimé ce qu'il décrivait et la façon de le décrire. Mais vous savez, on grandit et en mûrissant, mes modèles ont changé. Et en devenant adulte, des écrivains comme George Orwell, qui pouvaient avoir en même temps plusieurs idées politiques complexes en tête et faire des reportages extrêmement méticuleux sur la pauvreté en Angleterre ou sur la guerre civile espagnole. Mes modèles ont changé. C'est Orwell auquel je voulais ressembler. Mais cela dit, il y a beaucoup de passages dans ce livre qui veulent ressembler à l'action de l'océan et de vous emmener d'un endroit à l'autre, de la même manière qu'une vague. Mais bon, c'est une structure différente, ce livre.
Non, mais vous le dites, hein, d'ailleurs, sans dévoiler, les derniers mots du livre disent « Voilà, je continuais à douter, mais je n'avais pas peur, je souhaitais seulement que ça ne finisse jamais, comme l'océan, au fond. » On a l'impression d'une vague continuelle. Et le livre, d'ailleurs, est très itératif, en fait, répète aussi beaucoup, décrit vague après vague, comme si chaque vague décrite permettait d'affiner encore plus l'écriture de la vague.
Yes, it's true. At the end of the book,
c'est
writing
vrai,
about
la fin du livre,
a very special day,
d'écrire
surfing
une journée
with a Fijian guy in Fiji,
très spécifique avec
kind of big surf.
Une journée dans le, aux îles Fidji avec des spécialistes du surf entre les grandes vagues, tentant de me convertir à l'évangélisme chrétien. Et puis là, il y a le Fidjien. C'est pas un missionnaire, mais quelqu'un qui a été converti par des missionnaires qui tente de convertir le petit blanc américain. C'est ce grand cercle. Et les vagues étaient incroyables. Et à la fin, moi, je voulais continuer de surfer. Je voulais aussi continuer à décrire la vague suivante. Et puis la vague suivante.
On va, c'est vrai qu'il y a un savoir, hein. Il y a un savoir. Vous avez parlé de, d'un chrétien, d'un Fidjien, de conversion. Il y a un aspect théologique, au fond, mythologique et théologique dans ce livre. On va en parler avec vous, William Finnegan. On va écouter d'abord votre choix musical. Alors, c'est un extrait du thème musical d'un film qui a beaucoup compté pour vous et pour des millions de surfeurs. C'est « Endless Summer ». Quel est votre rapport à ce film, William Finnegan, dont vous parlez beaucoup dans Jour Barbare?
I saw The Endless Summer when I
J'ai vu ce film quand j'avais, je crois, 11, 12 ans, avant que ça ait été montré dans tous les cinémas. Ça a été projeté à des surfeurs en Californie, dans des salles de lycée. Ça a eu beaucoup d'impact, d'effet sur moi et toute ma génération. C'est deux surfeurs qui voyagent à travers le monde et qui cherchent la vague parfaite. Ça s'appelle Endless Summer. Un été sans fin, toujours en train de poursuivre l'été. Je crois que c'était un documentaire, et comme beaucoup d'entre nous, je me suis dit, ah ben, quand je grandirai, je dois faire ça, je ferai ça. C'est absolument obligatoire. Et je l'ai fait, en fait. Quand j'ai terminé la fac, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai gagné de l'argent, et je suis parti, et j'ai passé 40 ans à rechercher les vagues et essayer de découvrir de nouvelles vagues. Mais la vérité, c'est que c'est un hiver sans fin. Vous savez, on surfe mieux en hiver qu'en été. Il y a plus de puissance dans les vagues, plus de tempêtes. Donc, on n'est pas après l'été, on est après l'hiver. Mais c'est que plus tard, je me suis rendu compte que Endless Summer, c'était comme un tournage de 6 semaines. Il y avait deux surfeurs professionnels, deux meilleurs des années 60, et un réalisateur, Bruce Byrne, qui avait une idée derrière la tête. Et puis voilà, ils sont partis, ils ont voyagé, ils ont filmé ce truc-là à la va-vite. Et puis, moi, on m'a dit que c'était 6 semaines. Il y a beaucoup de fiction, ils ont réarrangé les choses, les détails du voyage. Donc, ça semble être, tiens, on est en Afrique du Sud, on a découvert la vague parfaite. Mais la vérité, c'est que il n'y a pas de vague parfaite, ça n'existe pas. Et cet endroit-là, c'est pas un spot de surf, c'est surfable peut-être 2 jours par an. Et moi, j'étais influencé par cette fiction dont je pensais que c'était un documentaire. Mais quand vous écoutez ce thème musical à la BO, vous voyez à quel point c'est séduisant, particulièrement pour un enfant qui est très romantique.
On écoute cet extrait du film Endless Summer. Alors, William Finnegan, on continue avec vous et avec cette exploration de Jour Barbare, votre autoportrait du jeune homme, non pas en artiste, mais du jeune homme en surfeur, voilà, comme aurait pu dire Joyce. Joyce est très présent, d'ailleurs, dans le livre. Je voudrais qu'on parle un petit peu de son Ulysses et puis du chant des sirènes. Comme si, finalement, de ces jours barbares émergeait une sorte de savoir ancestral, mythologique, peut-être bien théologique. Comment s'intrique la littérature à l'activité, au fond, du surfeur? Quel étrange lien ont ces deux activités, de lecteur et de surfeur?
That's a good question and a difficult question.
Bonne question et difficile.
I mentioned that what you're doing while you're surfing.
J'ai mentionné que ce qu'on fait lorsque l'on surfe, c'est tenter de comprendre, tenter de lire les vagues.
That's this kind of basic structure to the activity.
C'est la structure fondamentale de l'activité. C'est pas évident pour un public ou pour quelqu'un qui regarde de loin, qui surfe et qui ne comprend pas ce que c'est que le surf.
But really for me it's I was so
Mais pour moi,
kind of drunk on
literature j'étais tellement ivre de littérature quand j'étais jeune. C'est moi en train de regarder ce que je fais à travers ces optiques.
The books I'm reading.
À travers les livres que
je lis.
D'un côté, je m'identifie à Dédalus, le jeune écrivain qui est exilé de son propre environnement. L'Irlande le rendait dingue, il devait partir en exil, en France justement. Los Angeles me rendait fou, et il a fallu que j'aille quelque part qui soit meilleur pour l'âme, meilleur que cela. En partie, c'était l'Europe, mais c'était aussi des endroits où le surf était bon, était puissant, était nouveau, était non découvert encore.
Mais la littérature vous a-t-elle finalement aidé à apprécier encore plus ce sport qui se passe pour tant de mots? Parce que vous avez peut-être projeté des éléments littéraires sur ces vagues liquides.
I think it's true. Although at the same time,
je pense que c'est vrai, mais dans le même temps,
mes
journaux intimes
so
de ces jours-là, il n'y avait rien sur le surf. C'est difficile de dire ce que je pensais à l'époque, ce que je projette d'aujourd'hui. C'est difficile de dire ce que la littérature, l'écriture voulait dire pour moi à cette époque. Par exemple, mon ami le plus proche, le type qui est le personnage principal quasiment de ce livre, Brian DeSalvatore, est un écrivain avec qui je voyageais à travers le monde à la recherche des vagues. Et parfois, je pense que ce qu'on voulait vraiment, on voulait être ensemble, on voulait parler, débattre de livres, de l'écriture. Et le surf, c'était comme une excuse pour voyager ensemble, pour être ensemble. Notre sujet principal, c'était les livres, l'écriture. Et en fait, j'ai rencontré Brian à Hawaï. J'ai vu ce type qui passait, j'avais 18 ans. J'ai vu ce type traverser un parking avec un exemplaire d'Ulysse dans les mains. Et je l'ai arrêté, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites avec ce bouquin? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben ouais, qu'est-ce que vous faites avec ce bouquin? Et on a commencé à discuter, et on a parlé pendant 2 heures sous un soleil brûlant. On a parlé d'Ulysse, et puis il a continué. Je ne connaissais même pas son nom. C'est la première fois que je l'ai rencontré. Et on est toujours des amis extrêmement proches, et je lui ai envoyé un courriel même ce matin même.
Alors vous parlez de James Joyce, hein, de son Ulysses. Il est question aussi de l'Odyssée, hein, que vous lisez d'ailleurs. L'Odyssée est ouverte sur le volant d'une voiture qui vous aide à aller d'un spot à un autre. Vous parlez d'ailleurs de cette passion qui remonte à l'enfance comme d'un chant des sirènes, hein, le surf. En vérité, il y avait plus d'un chant des sirènes qui m'attirait vers le surf à l'époque. Je voulais savoir si vous saviez, William Finnegan, pour les besoins d'un livre, j'ai besoin de relire l'Odyssée d'Homère, et je me suis aperçu que, au fond, dans cet épisode du chant des sirènes de l'Odyssée, les sirènes ne promettent pas seulement un chant, mais elles promettent ce qu'elles appellent un savoir particulier, le savoir de tout ce qui advient sur la terre féconde. Au fond, elles promettent le don de l'avenir, les sirènes. Est-ce que vous avez, au cours de cette vie de surf, dégagé, au fond, un savoir particulier sur l'être humain, comme si des sirènes vous l'avaient susurré à l'oreille?
At some point in the long, long trip I described,
à un moment de ce long voyage que je décris, j'ai commencé avec Brian.
I don't know if we can call it Homeric,
je ne sais pas si on peut appeler ça quelque chose d'homérique, mais ça a duré 4 ans dans mes années 20. Et je me suis dit, est-ce que je suis perdu? Que fais-je de ma vie? Mes camarades d'université font des carrières, ce sont des professeurs, des enseignants. Et moi, je suis ce clodo, ce SDF qui vit dans la jungle avec la malaria, en Indonésie, dans l'attente de vagues. Je ne sais pas si les vagues vont venir un jour ou un autre. Et je me rendais compte à un moment, je ne suis pas ici en train de rechercher les vagues. Je suis là pour tenter de comprendre quelque chose au sujet de la réalité, quelque chose au sujet du monde, ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. C'était l'idée qui m'a mené à la non-fiction. J'essayais de voir le monde tel qu'il est. Quand j'ai quitté Los Angeles, par exemple, j'avais cette idée. Il faut que je me dépêche. Il faut que je voie le monde avant que le monde entier ne ressemble à Los Angeles, ne devienne Los Angeles. C'était un fantasme. Ça n'allait pas se produire. Ça ne se produira jamais. Mais il fallait absolument que je passe ces années-là, peut-être dans des pays pauvres, en Afrique, en Asie, dans le Pacifique Sud, pour comprendre la vie, que la vie avait sa propre logique. Et dans beaucoup de lieux, beaucoup d'endroits qui ne sont jamais visités par les Occidentaux, qui ne font pas partie de la carte médiatique, qui sont hors du monde médiatique, que ces endroits-là existent, qu'ils ont un sentiment qui pourrait informer mon écriture.
Ça, c'est presque une expérience plus que homérique, ulysséenne. Là, c'est une forme de nouvel Ulysse, puisque l'Odyssée est plus aussi qu'un roman d'aventure. C'est aussi une épopée sur ce que c'est qu'un homme, ce que c'est que le désir, ce que c'est que le rapport au Dieu, ce qui attache un homme à sa patrie, l'esprit d'aventure, la guerre. C'est une réflexion totale, au fond. C'est un petit peu un portrait de William Finnegan en Ulysse que vous nous donnez là.
That's too much.
C'est trop.
But you know, I must admit.
Mais il faut que j'admette que parfois, quand j'étais coincé sur ce bouquin, vous savez, j'ai dit que ça m'a pris 20 ans à écrire. J'ai écrit beaucoup d'autres choses, beaucoup d'articles pendant ces 20 ans. C'est toujours été sur un petit peu en arrière-plan. Et dans mes journaux intimes pendant ces 20 ans, il y a des citations classiques. Pas toujours d'Homère, ça peut venir d'Hérodote aussi, mais des citations de classiques qui ont été écrites en lettres capitales sur une armée qui arrive en, par exemple, l'armée grecque qui arrive en Perse.
L'Anabas, Xénophon.
Exactly.
Absolument, ce passage pour moi, ça voulait dire écris ce livre, écris ce bouquin sur le surf, termine-le. Il y avait comme un écho classique à cela.
Il y a bien des aspects mythologiques dans ce livre. Il y a beaucoup de violence, vous en avez parlé tout à l'heure aussi, des moments où le corps souffre, où tout ça, évidemment, on sent que ça se mérite. Il y a même des aspects théologiques, je voudrais qu'on termine là-dessus. Est-ce que finalement, Jour barbare, avec ce titre aussi de Jour barbare, n'amène pas l'avènement d'une sorte de nouveau culte, qui n'est pas seulement le culte du surf, mais je vous cite, dès le début, dès l'enfance, William Finnegan, vous écrivez, le surf a toujours eu comme horizon cette ligne tracée par la peur qui le rend différent de tant de choses et en tout cas de tous les sports de ma connaissance. Les vagues sont le terrain de jeu, le but ultime, l'objet de vos désirs et de votre plus profonde vénération. En même temps, elles sont votre adversaire, votre némésis, voire votre plus mortel ennemi. À 13 ans, j'avais pratiquement cessé de croire en Dieu, un nouveau rebondissement dans ma vie qui avait laissé comme un vide dans mon univers, l'impression d'avoir été abandonné. L'océan était un dieu insoucieux, infiniment dangereux, incommensurablement puissant. Et plus loin, le mot païen est même prononcé. Bref, j'étais devenu un païen à la peau brûlée par le soleil et je me sentais comme initié au mystère de l'existence. Au fond, le terme de tout ça, c'est le dégagement de tous les monothéismes existants.
Yeah, this is partly a reconstruction.
Vous savez, c'est une reconstitution de ce que je pensais à 13 ans quand j'ai quitté l'Église. Mais ça me semble très clair en y repensant. Et ça me semble bien vrai. Mes parents m'ont permis le choix. Eh bien, je suis parti. Ma famille a continué à aller à l'église, j'ai été élevé en tant que catholique romain, et moi, ces dimanches, je les passais à la mer, dans l'océan. Et c'est un système de croyances différent, ou un système existentiel, bien moins médié, c'est vous et l'océan.
Oui, il n'empêche, William Finnegan, qu'on a vraiment l'impression de théologie. D'ailleurs, la fin du livre parle des psaumes. Hein. Nous n'aurons rien à craindre lorsque la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument. C'est une citation des psaumes. À un autre moment, vous nous parlez d'une sorte de savoir ancien, les Hawaïens qui, pour sentir la mer, se plongent dans l'eau à mi-corps entre les balanciers de leur canoë et laissent à leurs testicules le soin de leur apprendre où ils se trouvent au cœur du vaste océan. Vous faites référence à Robinson Crusoe, vous parlez de l'enfance, vous parlez aussi du rêve d'un moment où la civilisation n'aurait plus cours, dans un état presque d'état pré-adamique, vous voyez. Est-ce que ce n'est pas finalement ce savoir ancien d'avant les hommes que convoque le surf et que vous voulez convoquer dans Jour Barbare?
It was the kind of knowledge and,
c'est le type de connaissances extrêmement romantiques qui me mouvait en tant que jeune homme.
I think now I have fewer illusions.
J'ai moins d'illusions aujourd'hui.
About these oppositions,
sur ces oppositions
between, you know, civilization,
entre la civilisation, la citoyenneté, l'empire, et cette vie des frontières, ce que j'appelle, moi, l'existence barbare ou païenne. Je suis très citoyen aujourd'hui, urbain. Je vis à New York, je produis du journalisme, des éditos, des récits pour le New Yorker. Je ne peux pas faire semblant d'être le sauvage de la frontière, je ne le suis pas. Mais ces idées ont dirigé ma vie.
Et pourtant, il y a une fin qui est terrible, hein, de Jour Barbare, où vous traversez Times Square. Et en fait, vous voyez une vitrine pour une grande marque de surf. Et dans cette vitrine, il y a, je vous cite, une vidéo qui passe en boucle sur les nombreux écrans qui surplombent le même magasin. Pour tous les autres passants, ce n'est sans doute que clinquant et plaisir pour les yeux. Cette vague turquoise qui roule d'un écran à l'autre, je la connais. Cette vague, elle se trouve dans l'est de Java, à la lisière d'une jungle. Brian et moi avons campé là-bas dans une cabane branlante au sommet d'un arbre. C'était dans une vie antérieure, pourquoi faut-il qu'il montre ici cette vague précisément? Et vous ajoutez, il me semble parfois qu'une partie importante de mon âme est exposée là, livrée au regard de tous, comme n'importe quelle affiche publicitaire vendant telle camionnette ou tel crédit à la consommation. Et vous ajoutez enfin, on ne peut que haïr la façon dont le monde tourne. Les jours de ce surf, comme pratique d'un temps et d'un espace barbare, sont comptés aujourd'hui, William Finnegan, quand on regarde votre analyse de cette description, de cette vidéo sur Times Square?
I don't think it really ends.
Je pense pas que ça se termine.
The ocean is there.
L'océan est là.
For different people to experience.
Pour que d'autres personnes fassent d'autres expériences.
I'm just reflecting on the.
Moi, c'est simplement une réflexion ironique.
And the sort of ache.
Et je parle d'une douleur de voir cette chose qui signifiait tellement pour moi, qui était une expérience tellement personnelle. Et qui se trouve maintenant utilisé pour vendre, pour exploiter, pour vendre n'importe quoi. Pas simplement des équipements de surf, mais des vêtements, des lunettes de soleil, des t-shirts, et des tas de trucs qui soient marqués surf. Parfois, je me sens un peu hanté. Partout, il y a des images de surf. Il y a quelque chose qu'on peut appeler l'industrie du surf, beaucoup de sociétés, d'entreprises qui sont dans les affaires de la vente de produits du surf, et leurs intérêts sont totalement différents de l'intérêt ou des intérêts des surfeurs eux-mêmes. Eux veulent que plus de gens soient intéressés par le surf pour qu'ils puissent vendre plus de leurs produits. Et les surfeurs, en attendant, veulent qu'il y ait moins de gens en train de surfer. C'est vrai de tous les surfeurs. Les surfeurs ne veulent pas qu'il y ait plus de surfeurs. Ils ne veulent pas plus d'exposition publicitaire. Ils ne veulent pas devenir plus populaires. C'est une catastrophe pour eux. Il y a trop de surfeurs dans l'eau aujourd'hui. On voudrait que ça soit rétréci et que les gens nous oublient. Mais l'industrie du surf a des intérêts différents.
Et ce livre est là, William Finnegan, pour rappeler justement que le surf n'est pas qu'une industrie, n'est pas que cette vitrine sur Times Square, mais aussi finalement quelque chose qui procure cet enseignement barbare, dans le bon sens du terme, dont l'être humain a besoin.
Well, thanks for saying that.
Merci d'avoir dit cela.
The critique of commercialism,
la critique du commercialisme, c'est un peu trop tard. En fait, c'est quelque chose qui vient très tard dans mon livre, c'est pas quelque chose de central. Bien sûr, c'est quelque chose que je sens. Les lecteurs peuvent se le dire. Oui, oui, on a vu toutes ces publicités. Mais au moment où le lecteur arrive à la fin du livre, ils savent exactement à quel point cette expérience de ces choses-là est différente des représentations commerciales. Il n'y a quasiment aucun lien.
Merci beaucoup, William Finnegan. Jour barbare, c'est publié aux éditions du Sous-sol et c'est traduit de l'anglais des États-Unis par Frank Reichert. Merci à Michel Zlotowski qui vous a merveilleusement interprété. Merci Michel.
Merci à vous.
Et merci encore à William Finnegan. Vous avez choisi un dernier morceau musical, on va se quitter en l'écoutant. Brown Eyed Girl de Van Morrison. Pourquoi ce choix musical?
Brown Eyed Girl,
c'était une chanson à la radio quand j'étais gamin à Hawaï dans les années 60. Et je l'ai aimé, c'était associé pour moi à un gars que j'admirais beaucoup et avec qui j'ai surfé sur un spot là-bas et avec une fille aussi. Et donc, ça ramenait toujours ce moment et ça une certaine tristesse. C'est à la fois gaélique irlandais et tropical. Et puis, c'est devenu terriblement populaire, énormément populaire. On l'entend dans tous les supermarchés. Et donc, c'est triste, mais d'une manière différente.
Merci, William Finnegan.
My pleasure.
Hey, where did we go? Days when the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and running, hey hey, skipping and jumping in the misty morning fog with our hearts thumping, and you, a brown eyed girl. And whatever happened to Tuesday and so slow, gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding high a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl.
C'est le moment de retrouver notre libraire de la semaine. Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec livrehebdo.fr. Nous sommes avec Christophe Coquelet de la librairie Les Quatre Chemins à Lille, 142 rue de Paris. Bonjour Christophe Coquelet.
Bonjour Christophe.
Alors vous avez choisi de nous parler d'un roman étranger. Le titre c'est Hausse de lune, l'auteur Jonathan Carroll. C'est traduit par Daniel Michel Chiche et Nathalie Duport-Serval. C'est traduit de l'anglais, des États-Unis. Et c'est publié aux Forges de Vulcain. On vous écoute.
Alors, on rentre dans ce roman The Line, qui est en fait une réédition proposée par les forges de Vulcain, autour d'un personnage clé qui se nomme Cullen, une jeune femme au milieu des années 80 à New York, qui a tout pour être heureuse. Elle a une vie sentimentale bien remplie avec un mari aimant. Elle s'entend bien avec son entourage. On découvrira dans le roman ses rencontres avec un ami critique de cinéma. On verra le fait divers qui a marqué son existence et également ses premières difficultés dans la vie relationnelle. Pour avancer petit à petit dans un roman qui, bien que d'apparence tout à fait banal dans sa première partie, apportera une touche de plus en plus fantastique. En fait, on rentre petit à petit dans le rêve, puisque Cullen rêve, un rêve tout à fait prégnant, un rêve qui va modifier considérablement son existence, puisque l'auteur, par un petit procédé littéraire, va nous amener à rentrer dans ce rêve tout à fait établi, un véritable monde, le Rondua. Dans ce Rondua, elle sera accompagnée par un jeune enfant du nom de Pepsi, qui va lui demander son aide pour accomplir quelque chose qui lui semble de la plus haute importance.
Alors, je vous interromps, le Rondua, qu'est-ce que c'est exactement ?
C'est l'univers merveilleux du rêve de cette jeune femme. Mmh. Visiblement, lorsqu'elle rentre dans ce rêve, lorsqu'elle passe la petite porte, eh bien, elle se retrouve dans le Rondua. Le Rondua a ses règles, où les animaux parlent, où la réalité n'est pas la même. Bien que, au fur et à mesure du récit, entre rêve et réalité, le pont va se rétrécir. Et l'auteur va finir par poser justement et glisser vers ce fantastique où on va avoir du merveilleux, on va avoir du poétique, on va avoir un fond d'humour, on va aussi avoir de l'inquiétant. On va avoir du surnaturel qui va venir petit à petit, la réalité se modifie à tel point que rêve et réalité deviennent totalement perméables.
Épanchement du rêve dans la réalité, comme disait l'autre.
Exactement. Et ce rêve va aller encore de plus en plus loin, jusqu'à accaparer une bonne partie des pensées de Cullen. À quel point ce rêve peut-il avoir finalement un impact sur sa vie et ce qu'elle fait au quotidien avoir un impact sur ce rêve?
Et qu'est-ce qui vous a touché alors dans ce livre?
Alors il y a plusieurs choses. C'est d'abord un roman assez court, qui est sensible, avec une plume tout à fait précise, avec une capacité, je trouve, absolument extraordinaire à décrire le personnage féminin, or que l'auteur est un homme, beaucoup de sensibilité et beaucoup d'attachement à décrire les petits détails qui font qu'avec peu de personnages, il arrive à créer une ambiance très addictive. On a vraiment envie de savoir ce qui va se passer dans ce monde du Rondua. Et ce qui m'a marqué particulièrement, et je voudrais le dire, c'est un roman qu'il faut mener jusqu'à la dernière page, parce qu'on a deux chapitres tout à fait magistraux qui clôt cette œuvre de très très belle qualité.
Hausse de lune de Jonathan Carroll, donc c'est aux Forges de Vulcain, traduit par Daniel Michel Chiche et Nathalie Duport-Serval, c'est traduit de l'anglais, des États-Unis. C'était votre choix, Christophe Coquelet. Je rappelle que vous nous venez de Lille, hein, de la librairie Les Quatre Chemins, qui se trouve au 142 rue de Paris. Vous vouliez nous annoncer un événement qui vous tient particulièrement à cœur.
En effet, le troisième week-end de septembre, nous nous retrouverons au Salon Métropolitain du Polar de Templemar pour le 10e anniversaire, autour du thème polar ésotérisme, polar société secrète et théorie du complot.
Eh bien, merci Christophe Coquelet, à très bientôt.
Merci.
Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, Anne-Laure Chanel, Bruno Mourlan, Jean-Richard Dufour, avec la complicité d'Héloïse Alluin. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook, vous pouvez tweeter, vous pouvez podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr, cette heure que nous avons passée avec William Finnegan, l'écrivain, surfeur, prix Pulitzer.